Le Grand Dialogue.
Sigi Kafomba.
Et Dewani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafomba. Le Grand Dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous suivez les programmes de Studio Tamani en live sur Facebook et sur 85 Radio. Et dans quelques heures, vous pourrez suivre ce grand dialogue sur Énergie TV, Renouveau TV et Belédougou TV. Ce soir, le débat s'intéresse à la gouvernance au Mali. Quel bilan en 2020 et quel défi pour 2021? Nos invités, ils sont trois. Dr Brema Eli Diko, sociologue, professeur à l'Université des Lettres et Sciences Humaines du Mali. Madame Mariko Korotou-Moutera, directrice de l'ONG FEDDE, et professeur Mamoutou Soumaré, économiste chercheur au groupe de recherche et de réflexion sur la corruption. Je suis Mouhamadou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Insécurité, coronavirus, grogne sociale, coup d'État et décès de nombreux Maliens, dont de hauts cadres politiques du pays. Alors, quel bilan de l'année 2020 en matière de gouvernance, Dr Brema Eli Diko?
Bien, merci pour la question. Je commence par présenter mes vœux les meilleurs à l'ensemble des Maliens. Vivement la paix au Mali et donc la fin du coronavirus aussi qui, je pense, a quand même mis à l'épreuve le monde entier. Alors, quel bilan? Il y a énormément de choses à dire. Vous-même, vous avez cité tantôt la grogne sociale, vous avez cité le coup d'État, vous avez cité les décès de nombreuses personnalités. D'ailleurs, ça continue avec 2021. S'il y a plusieurs éléments à retenir, on peut se focaliser sur la crise sécuritaire. Parce que depuis 2012, quand même, le Mali fait face à une crise sécuritaire qui s'étend, dont le champ de l'insécurité commence à atteindre les autres parties du Mali. Avant, c'était le centre du Mali. On a commencé par 2012, centre du Mali. Le Sahel occidental, c'est toute la frontière avec la Mauritanie. On sait que Bamako a été aussi victime d'attaques qu'on peut considérer comme des attaques résiduelles, hein, du banditisme résiduel. Alors, il y a eu la crise de l'école. Moi, ça me touche énormément parce que vous savez, nous sommes dans un pays où 65% ont moins de 25 ans. L'année dernière, avec la grève des enseignants, les enfants sont restés à la maison. Et si on pense que l'école coûte cher, comme disait un des penseurs, il faut attendre de mesurer le coût de l'ignorance. Et si les enfants ne partent pas à l'école pendant plusieurs mois, demain, c'est eux la relève de toute façon. Qu'est-ce que le Mali sera? Moi, c'est la question que je me pose en tant que prof d'université. Mais il y a aussi toute la grogne sociale, parce que la grogne sociale n'est qu'une somme de frustration. Et finalement, les élections, donc le résultat des élections de mars-avril 2020, n'ont fait que finalement jeter le feu sur la poudre qui existait. Donc c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et donc parler de la grogne sociale, oui, mais il faut parler de toute cette somme de frustration qui nous a amené finalement à ce changement de régime. Le changement de régime en soi, c'était une situation assez difficile pour le Mali lui-même parce qu'on avait connu un coup d'État en 2012, un autre en 2020, donc 8 ans. Donc on s'est dit, à ce rythme-là, si on continue, qu'est-ce que le Mali va être? Parce que ça crée beaucoup de problèmes, ça ternit l'image des pays et donc c'est un éternel recommencement des initiatives. Après, il y a le décès des personnalités, bon, on paie aussi à leur âme. Donc quand on prend tout ça en compte, on se rend compte que l'année 2020 a été une année très difficile, une année éprouvante pour l'ensemble des Maliens. Et j'espère simplement que ça a été une année qui a permis à l'ensemble des Maliens de prendre la mesure de la profondeur de notre crise, qui ne saurait se résoudre à la crise électorale, certes, qui a conduit en tout cas au renversement finalement, en tout cas au mouvement et finalement au renversement, mais qu'on se donne en 2021 l'opportunité de dialoguer, de s'écouter et de s'accorder sur l'essentiel, ce qu'on peut faire.
On va y revenir sur 2021 tout à l'heure. Professeur Mamoutou Soumaré, vous, est-ce que vous partagez ce bilan qui vient d'être fait par Dr Brema Eli Diko?
Oui, donc bonne année à tous nos auditeurs, hein, téléspectateurs et auditeurs. Globalement, oui, je partage les analyses du Dr Diko. Et vous avez dit de ne pas parler de 2021. En fait, 2021 va être la conséquence de 2020. Et c'est là où le problème de gouvernance semble faire défaut, c'est que tout ce qui va se passer en 2021 aurait dû être prévu dès 2020. un exemple tout simple. Vous savez que, bon an, mal an, les travailleurs émigrés maliens font des virements entre 300, 400, 500 milliards de francs CFA. Ça, c'est les virements officiels, c'est-à-dire ceux qui passent par les circuits de monogramme, etc. Les 120 000, 150 000 Maliens qui sont en France sont en majorité confinés. Ils travaillent dans le BTP, ils travaillent dans la restauration. Il va y avoir une chute des transferts monétaires. Donc imaginez déjà, on est à 40% de la population malienne qui est sous le seuil de pauvreté. Le Covid va amener peut-être 1 million à 2 millions de pauvres supplémentaires. Ça, il fallait que les dirigeants pensent à ça. Parce que les conséquences vont se faire ressentir l'année prochaine, cette année. L'agriculture. On a décidé de payer le kilo de coton à 200 francs. Les agriculteurs dans la région de Sikasso, de Kouchala, etc., ont décidé de ne plus cultiver de coton. Bon, ils continuent à en cultiver, mais ça va mener une chute. Et les prévisionnistes prévoient que cette année, la Côte d'Ivoire va même produire plus que nous. On a été dépassé il y a quelque temps par le Bénin, le tout petit Bénin, là, hein, qui, avec 114 000 km² de superficie, produit plus de produits agricoles que le Mali. On va être également dépassé par une petite décision économique, le fait de diminuer de 265 à 200 francs le prix du coton. Tandis que le Bénin continue à payer à 265 francs. On parle de l'or. Le président veut que l'or brille pour tout le monde. Dans aucun pays du monde, l'or ne brille pour tout le monde. Il ne doit pas briller pour tout le monde au Mali. Le coton fait vivre 3 millions de personnes. Au Mali, l'or, c'est environ 15 000 salariés pour toutes les mines. L'incidence sur la pauvreté, sur l'économie, sur la consommation des mines est quasiment nulle. À la rigueur, le secteur minier qui fait briller beaucoup de personnes ou qui brille pour beaucoup de personnes, c'est le secteur informel. On estime qu'il y a environ 250 000 personnes qui vivent de l'or dans tout ce qu'on appelle les tamandas, l'orpaillage, ouais. En bambara, on dit. Hein, donc vous imaginez. Et ça, on le néglige, on lutte contre ça. Alors qu'ils emploient plus de 250 000 personnes. Vous voyez, donc ça, c'est de quelques éléments économiques qui vont avoir une incidence. Ne parlons pas, donc, vous avez fait divers débats sur la corruption. La corruption, c'est une partie. Il y a une autre partie qui est encore plus importante pour moi que la corruption, c'est la diminution du train de vie de l'État. Je ne sais pas si vous voyez, quand une V8, Toyota V8 passe devant vous, elle fait 88 millions. Ça correspond à 400 ans de ce que gagne un pauvre au Mali. Une V8, c'est 400 ans. Il faut qu'un pauvre malien travaille pendant 400 ans pour acheter une V8 dans laquelle les autorités se promènent à longueur de journée.
En résumé, ça veut dire qu'un pauvre malien ne peut se procurer une V8.
Il faudra qu'il attende 400 ans. Donc vous voyez, il y a énormément de choses. Et là, quand vous parlez de gouvernance, la gouvernance, ce n'est pas uniquement la lutte contre la corruption, c'est vraiment tout ce qui peut permettre de diminuer la pauvreté. Parce que vraiment, il faut qu'on se rappelle cette notion. Il y a 42% ou 43% de la population qui vit avec moins de 175 000 francs CFA par an. Ça, je l'ai dit à plusieurs reprises.
Et en 2020, est-ce que la situation, il faut s'attendre à une détérioration?
Ah oui, une détérioration. Détérioration parce que bon nombre de personnes vivent, par exemple, quand je parlais des émigrés, ils envoient une partie de leur salaire. Je ne sais pas si vous avez vu quand vous faites dans vos voyages, hein, vous voyez que les gens qui sont dans les foyers, etc., ils envoient tout leur argent au Mali. Voilà. Et les gens se soignent avec ça, les gens envoient, s'habillent avec ça, construisent des maisons avec ça, envoient leurs enfants à l'école avec ça. Tout ça va chuter. Et on n'a pas d'État-providence. C'est-à-dire l'État, quand l'État maintenant décide, par exemple, de de fermer les écoles, de fermer les restaurants, de fermer toutes les activités. L'État ne donne rien en retour. Vous allez en France, quand l'État dit fermez vos hôtels, l'État va dédommager les hôteliers. Et ici, ça veut dire qu'on a énormément de problèmes et on va avoir de la pauvreté. Cette année, 2021, va être très très dure pour les salariés, pour un ensemble très important de la population malienne. Et il faut qu'on prenne conscience de ça dès maintenant.
Madame Mariko Kurutomutera, vous, le bilan de l'année 2020.
Merci, Monsieur Touré. Je saisis l'occasion pour souhaiter mes voeux de bonheur à tous les Maliens. Donc, pour ne pas répéter les deux qui ont dit pratiquement l'essentiel des difficultés que les Maliens, le Mali et les Maliens ont vécu en 2020, je vais quand même insister sur un certain nombre de points. La sécurité, on ne peut pas en parler. Mais l'aspect que je voudrais parler, ce sur quoi je voudrais insister, c'est le déplacement de la crise du nord vers le centre du Mali. Et ce déplacement qui a provoqué une crispation qui a pris une connotation ethnique, donc notamment entre les Peuls et les Dogons. C'est important de mettre l'accent sur ça parce que c'est une des deux ethnies qui vivent ensemble depuis des centaines d'années. Il n'y a pas eu de problème. Donc, peut-être qu'au cours du débat, les gens qui nous écoutent vont contribuer aussi à réfléchir, à analyser, à trouver vraiment, à aider à trouver une solution. Et face à ce problème, ce que moi j'ai noté, c'est l'absence de l'État. C'est absolument l'absence de l'État qui a laissé la place à des milices qui pullulent de partout. Et ces milices se sont très vite accaparées le monopole de la violence dans le pays. Quelque chose qui est vraiment à déplorer. Et en plus de cela, il y a la mise en œuvre de l'accord d'Alger dans un climat vraiment de manque de confiance et d'une très grande méfiance. Et à cela s'ajoute également la mise en œuvre accélérée du DDR. Vous avez suivi il n'y a pas longtemps le premier responsable de Dana Amasagou sur un ton menaçant qui déclare rejoindre l'Azawad si jamais l'État ne réagissait pas. Moi, j'ai compris ça comme... il s'inscrit dans une logique très claire et j'ai vu ça comme une pression. Une pression pour s'insérer dans l'accord d'Alger. Donc, c'est pour vous dire que 2020 est passé, 2021, croisons les doigts pour que ça ne soit pas plus catastrophique. Parce que l'accord d'Alger a été signé, j'ai compris qu'il y a certaines milices qui n'existaient pas. Et ces milices, maintenant, veulent être prises en compte dans l'accord d'Alger. Donc, dans la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Et ils veulent avoir les mêmes bénéfices que les signataires de l'accord d'Alger. Donc, ça, c'est un gros souci qui menace. Alors, en plus de cela, il y a également, si on prend sur le plan économique, il y a la destruction des économies locales, en tout cas des zones d'insécurité. Et cette destruction de l'économie locale a une répercussion sur l'économie nationale. Quelque chose qui n'est pas à négliger. Si à cela on ajoute la crise du coton par une décision, comme il a si bien dit, je ne veux pas le répéter. Il y a également, je l'ai dit sur ce même plateau, la décision de réduire la subvention que l'État traditionnellement accorde aux cultivateurs pour avoir les intrants. Et donc, ce montant a été affecté à la COVID-19, à la riposte au COVID-19. Donc, ça nous a amené dans une situation par rapport à la COVID-19, la limitation des mouvements, comme il vient de le dire, ensuite la fermeture des établissements. Avec tous ces éléments-là, déjà, nous nous retrouvons dans une situation de perte en valeur de capital humain. Il est enseignant, il le sait mieux que moi. Si en plus, on a deux années successives sans pour autant qu'il y ait une éducation de qualité, et même la durée, la simple durée, je crois que l'année dernière, on a fait 6 mois. D'autres écoles ont fait moins de 6 mois. Cette année, on a annoncé les rentrées. Après, on a reporté. Je crois que c'est le deuxième ou troisième report. Donc, tout ça, quand on met tout ça ensemble, vous voyez, il y a tous ces éléments réunis ont vraiment... j'allais oublier, il y a également la gestion des richesses du pays, l'opacité autour de la gestion des richesses du pays, notamment des richesses minières, la richesse des sous-sols maliens. Du sous-sol malien, je vais dire. Donc, ceci est tellement grave, ça fait sourire tout le monde parce que tout le monde le sait. Aujourd'hui, nous avons des cadres maliens, nous avons des citoyens maliens qui ont pris sur eux, en connaissance vraiment en la matière, de donner l'information aux Maliens sur les réseaux sociaux. Tout n'est pas vrai, mais tout n'est pas faux non plus. Donc, nous avons toutes ces informations. Et un Mali pauvre d'un côté et de l'autre côté, un Mali hyper riche qui fait que tout le monde tourbillonne autour, personne ne veut partir, mais tout le monde décrit l'état de pauvreté, de délabrement du pays. Mais personne ne veut partir. Ça, c'est entre parenthèses. Donc, quand on met tout ça ensemble, ça a engendré l'autre forme de violence, que je ne saurais être sur ce plateau sans en parler, les violences basées sur le genre, notamment dans les zones d'insécurité. Encore dans le sud du Mali, dans le reste du Mali, il y a une prise en charge. Mais dans les zones d'insécurité, il n'y a pas de prise en charge concernant les violences basées sur le genre. Et c'est vraiment dommage parce que dans un monde d'inégalité, il est impossible de penser à un futur, à un lendemain meilleur. Donc, c'est là également, je l'ai dit sur le plateau la dernière fois, vous savez, de juin à juin à août.
2020.
De juin 2020 à août 2020, les personnes en situation de vulnérabilité ont augmenté de plus de 30%. De 4,8 millions, nous sommes aujourd'hui à 6,8 millions, en attendant que les chiffres du cadre harmonisé ne tombent. Par ailleurs, il y a les chiffres officiels du cadre harmonisé pour le moment qui table sur 5 millions de personnes au Mali en situation de vulnérabilité. Et sur ces 5 millions de personnes, il y a 1 100 000 personnes qui sont en situation d'urgence. Ça veut dire que si on n'intervient pas urgentement, il peut s'en suivre mort d'homme. Et les 3 et quelques millions sont sous pression. Ça veut dire que s'ils ne sont pas également pris en charge, ils tombent en situation d'urgence. Et donc, vous voyez, avec tous ces éléments réunis, avec notamment l'inondation que nous avons connue actuellement dans la zone de Tombouctou, qui a l'habitude de produire de l'excédent, et cet excédent est transporté dans le reste du pays. Et qu'est-ce qui se passe? Il se trouve qu'avec l'inondation, il y a les mauvaises herbes qui ont poussé, qui ont bouché les trous de passage de l'eau vers les champs qui ont besoin d'eau. Et donc, l'eau est retournée sur les champs déjà inondés. Ce qui fait qu'on aura, non seulement on n'aura pas d'excédent dans cette partie de la région, mais on aura besoin de le venir en aide. Donc ça fait tellement de problèmes, tellement de situations cumulées en plus de tout ce que les autres ont cité, ça fait que le tableau 2021 n'est pas tout à fait luisant. Mais moi, ce que je retiens quand même de bon en 2020, c'est qu'il y a eu cet élan, ce sentiment de patriotisme qui s'est éveillé ou réveillé chez les Maliens. Et qui a conduit à ce que les deux intervenants ont dit, M. Dikoué. Et donc, qui nous a conduit là où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire qui a conduit à un changement de régime et vers une transition. Et la logique voudrait qu'une transition favorise une refondation de l'État.
Et on va y revenir sur la refondation et autres. Justement, c'est la question que j'allais poser parce que les points qui ont été évoqués par rapport au bilan de 2020 semblent tous négatifs. Alors, professeur Mamoutou Soumaré, si on doit parler de positif par rapport à 2020, Madame Mariko évoque un sentiment de patriotisme. Vous, est-ce que vous voyez un autre point positif?
C'est une bonne question. Non, comme elle l'a dit, effectivement, il y a eu ce mouvement. Les gens ont senti en fait qu'il fallait qu'il y ait un changement. Mais on se demande, est-ce que le changement voulu, est-ce que ça n'a pas été pire que le mal? C'est l'impression que les gens ont. Je ne sais pas maintenant. C'est une transition, comme Mme Mariko l'a dit. Une transition, normalement, elle est là pour essayer de remettre en état. Bon, après, il y a certaines décisions qui semblent un peu... qui posent question. À titre d'exemple, quand vous voyez que dès le mois de décembre, le nouveau régime a nommé deux aides de camp pour le président Ibeka, la population peut se poser des questions. Est-ce que le président Ibeka a besoin de deux aides de camp dès maintenant? Deux capitaines. Donc ouais, il y a un certain nombre d'actes qui sont posés, qui posent des questions. On peut espérer maintenant que la société civile, bon, il y en a également un problème, c'est que la société civile qui était à la pointe semble s'être un peu retirée du combat. C'est normalement c'est la société civile qui doit être support de la transition, qui doit être force de proposition. Mais on ne voit pas réellement la société civile agir. Alors vous avez énormément d'organisations de la société civile qui sont représentées dans beaucoup de structures, mais qui sont un peu silencieuses. Et donc, vous m'avez demandé des points positifs, mais en fait, j'arrive pas à en trouver.
Justement, on va demander à Dr. Brahima Elidou. Est-ce que vous arrivez à trouver un point positif par rapport au bilan de l'année 2020?
C'est difficile, c'est une question que je ne m'étais pas posée. Parce qu'habituellement, nous, on fait les diagnostics. Et puis, on essaie plutôt de voir, en termes de propositions, qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, ben, vu que madame, je vais peut-être marcher, elle a déjà donné un exemple, donc je vais renchérir dans ça. C'est que, en fait, les Maliens, quand même, mine de rien, à un moment donné, on sentit qu'il fallait faire quelque chose et ils se sont mis ensemble, au-delà de toute appartenance politique, parce qu'on a vu la société civile, on a vu des hommes politiques, on a vu d'autres hommes, enfin les gens se sont regroupés au-delà de leurs égos personnels, tant soit peu, autour d'un objectif commun. Et ils se sont donnés, ils ont fait des réunions nocturnes, enfin la journée, tout ça, et les Maliens se sont mobilisés, à la fois à Bamako, Sikasso, Tombouctou, Gao, Kai, et ensuite la diaspora, donc la France et les États-Unis notamment. Donc les Maliens ont montré, où qu'ils soient, ils sont, lorsque le pays est menacé, ils sont capables de montrer leur mécontentement, de dire non, finalement, même à des décisions de la Cour constitutionnelle pour dire non, nous refusons que notre victoire soit volée. Donc c'est déjà important que ça montre que les citoyens quand même ont occupé un peu ce rôle de veille. Et après qu'ils se sont battus quand même pour ça, parce que n'oublions pas que le 10, le 11 et le 12 juillet, des civils ont été quand même tués. Et donc le rapport de la MINUSMA est là pour le documenter. Donc ça c'est quand même, donc malgré tous les risques, les gens ont été emprisonnés, malmenés au camp 1 et puis ailleurs. Ils ont quand même cru en eux, ils ont dit il faut se battre pour ce à quoi on croit. Donc ça, c'est un élément positif. Peut-être le deuxième maintenant, vu que je commençais à parler, c'est peut-être la justice. Parce que quand même, mine de rien, il y a eu quelques arrestations en 2020. Donc il y a eu Bakary Togola, il y a eu le maire de Bamako, et puis il y a eu d'autres arrestations. Donc bon, la justice a fait un peu, en tout cas, a continué à faire son travail. Donc ça montre un peu, en tout cas, ça donne l'illusion. Hein, ou peut-être le sentiment que bon, ça y est, la justice est la même pour tout le monde. Parce que bon, le ressentiment vis-à-vis de la justice est une réalité au Mali, notamment si on est au centre du Mali ou si on est ailleurs au Mali. Donc ça, c'est peut-être deux éléments positifs sur lesquels je peux... Mais juste pour compléter le bilan 2020...
Justement, là, le bilan par rapport à la question de paix et de sécurité aujourd'hui.
Justement, sur la question de la paix et de la sécurité, si on prend par exemple pour la mise en œuvre de l'accord d'Alger, on n'a pas véritablement avancé. À un moment déjà, il y avait même une sorte de rupture. Après, il a fallu faire des négociations pour que le CSA continue ses réunions. Et on a aujourd'hui plus de 361 000 déplacés internes. Et rien que dans la périphérie de Bamako, on a environ 7 camps de déplacés, composés de femmes, de veuves, d'enfants. Des enfants qui sont laissés à eux-mêmes. Il faut aller voir dans quelles conditions de promiscuité les gens vivent. Il y a plus de 126 000 réfugiés dans les pays voisins, en Beira, au Niger, au Burkina. Donc c'est pour dire que les Maliens continuent de souffrir de l'insécurité. Et Bamako, la situation est de plus en plus pire. Parce qu'on peut être attaqué en pleine journée. Il y a eu beaucoup d'assassinats, notamment de l'imam Yata Barry, non, si je ne me trompe pas. Donc il y a eu beaucoup de choses quand même.
Y a-t-il donc une zone sécurisée au Mali aujourd'hui?
Je ne le pense pas. Sincèrement, moi je pense qu'au Mali, l'insécurité peut changer simplement de forme, mais il y en a partout. Vous savez, si vous êtes par exemple dans le sud du Mali, c'est vrai que Fakola, M. Nicolas Djaba ont été attaqués par Ansardine du Sud, Souleymane Keïta par le passé. Mais la zone de Koutiala, par exemple, Kouri, tout ça, sont au fond toujours l'objet d'attaques. Djema, donc dans l'ouest, Sandaré ont été attaqués. Vous allez vers Manakoro, donc la frontière avec la Côte d'Ivoire, il y a des attaques là-bas. Vous allez à Bougouni, il y a des attaques là-bas. Bamako, comme je l'ai dit, en raison de l'insécurité, on ne sait même plus sur quels pieds danser. On a même vu des... Alors, c'est vrai que l'État a fait des patrouilles tant soit peu pendant un certain temps, des gens ont été arrêtés. Mais bon, comme on aime ouvrir des enquêtes dont on ne voit pas les résultats, on ne sait pas où est-ce qu'on en est.
Justement, et concernant, quand vous parlez d'enquête, il y a eu des rapports, notamment du vérificateur général, qui ont été déposés depuis des années notamment. Il y a également des rapports de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, l'OCLE. Aujourd'hui, économiquement parlant, quand on analyse la situation en 2020, professeur Mamoutou Soumaré, est-ce que il y a eu des problèmes qui pouvaient être évités ?
Bon, normalement, on pourrait dire que tout problème peut être évité à partir du moment où il a fait l'objet d'une analyse approfondie. Vous parlez des rapports du vérificateur. Il y a deux choses par rapport au rapport du vérificateur. Il y a la perception que les gens en ont et il y a la réalité de ce qui est dans les rapports. Parce que les gens, surtout vos collègues, hein, certains de vos collègues, prennent le montant qui est... le montant global qui est défini en disant que ça, c'est. On a détourné 300 milliards. Le vérificateur n'a jamais dit qu'il y a eu 300 milliards de détournés au Mali. Il va vous dire qu'il y a 125 milliards qui fait l'objet de dénonciations qui sont des détournements et que le reste, en fait, c'est de la mauvaise gestion. Et c'est le problème dans les rapports du vérificateur. Qu'est-ce que la mauvaise gestion ? En 2013-2014, le vérificateur a qualifié de mauvaise gestion le fait qu'un ancien Premier ministre ait acheté pour 125 millions de meubles pour équiper son domicile personnel.
125 millions.
125 millions.
Pour un seul domicile.
Pour un domicile. C'est un peu plus détaillé, mais globalement, c'est 125 millions.
Y compris le coût de la maison ou bien les meubles ?
Non, non, l'ameublement, c'est dans le rapport 2013 ou 2014. Et il l'a qualifié de mauvaise gestion. Si on qualifie de mauvaise gestion, ça veut dire que ça ne fait pas l'objet de dénonciation. Et on lui a demandé que cet ancien Premier ministre rembourse. Donc, vous voyez le souci par rapport, par exemple, à ces rapports dont vous parlez. Donc, il faudrait... approfondir justement l'éthique au niveau de la fonction publique, au niveau des personnes qui détiennent les ressources. Quand je parlais tout à l'heure des V8, il faudrait interdire des véhicules d'un certain montant.
Est-ce que c'est ce qui justifie le déficit de près de 700 milliards de francs CFA
Non, mais c'est quelques éléments. En fait, le budget, il faut voir comment les budgets sont élaborés. Il y a des éléments, on essaie de voir les recettes et les dépenses, et on essaie de compléter, en fait, ce qui va faire équilibrer le budget. Et depuis, quasiment toujours, le budget, et dans quasiment tous les pays du monde, les budgets sont déséquilibrés. On dépense toujours plus que ce que l'on reçoit. Et au Mali, on a un déficit très important, c'est par rapport à la fiscalité. On ne paye pas suffisamment d'impôts. On est entre 10, 12 et 15%. Il n'y a pas suffisamment. L'assiette des personnes qui payent des impôts est très faible. Comparé, par exemple, au Burkina, c'est pour ça que quand on fait des analyses, on dit « oui, les fonctionnaires burkinabés sont plus payés que les fonctionnaires maliens, ou bien c'est pas normal, etc. » Mais les Burkinabés payent plus d'impôts que les Maliens. Ils doivent être à 25 ou 30% d'imposition, de taux d'imposition par rapport à la population. C'est-à-dire chaque Burkinabé, si on fait le ratio de ce qu'il paye, est supérieur à ce que les Maliens payent. Donc ce déficit-là, il est structurel. Maintenant, comment diminuer ce déficit ? C'est là où on vient au train de vie de l'État. Est-ce que vous pensez que c'est normal que... Vous voyez les véhicules des Nations Unies. Les Nations Unies utilisent des Ford Station Wagon. Ces Ford Station Wagon, elles font 38 millions. Ici, d'après le document, la mercuriale des prix, c'est 38 millions. Le gouvernement malien, lui, il achète des véhicules à 70 millions. Alors que les Nations Unies, ils nous donnent de l'argent. Est-ce qu'on ne peut pas diminuer ? Un ministre peut très bien circuler dans une RAV4. Les RAV4 font 24 millions. Je parle des chiffres officiels dans la mercuriale des prix qui est disponible sur le site du ministère des Finances. Ça, c'est réduction des trains, du train de vie. Est-ce que c'est normal qu'un ministre malien voyage en première classe ? On doit voyager en deuxième classe. Il faut qu'on prenne en compte qu'on est un pays pauvre et qu'on doit vivre comme un pays pauvre. Et non pas dire, oui, un ministre anglais ou allemand vit comme ça, on doit vivre comme ça.
Il nous reste 15 minutes. On va donc parler des défis pour 2021. Sur la page Facebook de Studio Tamani, il est possible de participer au Grand Dialogue en posant des questions, notamment aux invités. Et Sidi Daou demande, lui, il estime que les grands défis à relever en 2020 demeurent la restauration, notamment, du pouvoir. Est-ce que vous partagez son avis, Madame Marico?
Eh bien, bien sûr. Ça, c'est essentiel. Quand il n'y a pas d'autorité de l'État, c'est-à-dire, c'est comme tout le reste tombe à l'eau. Il le disait, M. Diko, tantôt, que quand le chef de famille est correct, il y a 90% de chances que le reste des membres de la famille soit correct. Mais quand le chef de famille lui-même interdit des choses et il se met à le faire, ou quand le chef de famille est affaibli, ou bien il faiblit devant les autres membres de sa famille, c'est là, ça, c'est bonjour la catastrophe. Il est essentiel aujourd'hui pour le Mali, pour notre pays, et que l'autorité de l'État s'instaure. Mais cela ne peut pas se faire sans une bonne gouvernance. C'est impossible. Il faut qu'on soit à mesure d'améliorer la qualité de notre gouvernance. Que les uns et les autres s'y mettent. Que les acteurs sachent qu'ils ont la responsabilité de donner le ton. On ne peut pas dire l'État, c'est... Bon, d'aucuns diront que c'est nous tous. Mais en réalité, moi, par exemple, je suis devant vous, je n'ai pas de pouvoir. Je peux avoir la bonne foi, mais je n'ai pas de pouvoir, moi. Celui qui a le pouvoir, c'est celui-là qui peut imposer le changement. Pourquoi les Maliens aiment s'inspirer aujourd'hui de Kagame ? En pensant au Mali de Mourou Keïta, ils font tout de suite les liens avec Kagame. Pourquoi on parle de Paul Kagame et puis le Rwanda? Pourquoi? Parce que ces deux... Paul Kagame a une forte personnalité et il est arrivé à imposer un changement dans son pays. Mais allez-y voir tout ce qu'il a dû faire pour arriver à ce changement-là. Mais au Mali, il y a... Puisque c'est comme si chacun s'est dit que en Bambara et Malissoro de Dobebita Sama. C'est devenu une question.
Un partage de gâteaux.
Voilà, un partage de gâteaux. Donc à chaque fois que quelqu'un a l'opportunité d'être là, il dit, bon, je peux ne pas être là demain, donc il faut que je prenne le maximum. Mais en oubliant que même s'il prenait le tout, peut-être que ses enfants vont vivre dans l'opulence. Mais puisqu'ils ont, c'est un bien mal acquis, ces petits-enfants ne pourront pas bénéficier de ces fonds-là, encore moins les enfants de ces petits-enfants. Donc, la situation va se dégrader, qu'on le veuille ou non. Il faudrait qu'on s'y mette, qu'on comprenne. Quand je parlais du sentiment de patriotisme, je voudrais mettre l'accent sur ça, je n'ai pas beaucoup de temps, mais ce que je voulais dire, c'est l'entretien de ce sentiment de patriotisme. Je ne suis pas sûre que c'est le même sentiment qu'en septembre, en septembre tout proche. Mais ce qui est sûr, c'est que les Maliens ont compris, même les vendeurs dans la rue discutent politique. Ils ont compris aujourd'hui que leur devenir là, il faudrait qu'ils le prennent en charge, qu'ils le prennent en main. Donc c'est ça l'important. Il faudrait que cette pression de la société civile, effectivement, qui est une société civile aujourd'hui défaillante, il ne faut pas avoir peur de dire la chose, c'est clair. Parce que chacun joue un jeu qui l'arrange. Mais il nous faut une société civile qui est aujourd'hui à la tête, mais en dessous, il y a une société, il y a la population, le peuple malien qui s'est organisé.
Et écoutons ce peuple malien-là. Il y a certains habitants de Bamako qui ont réagi par rapport à leurs attentes en 2021. On va les écouter.
Je souhaite que cette année, l'accord de paix soit une réalité.
On veut que le régime en place trouve une solution pour préparer bien les élections, quoi.
Et que Dieu donne l'année le plus meilleur cette année-là. Et ceux qui sont en devant de nous, on leur demande le courage.
La conjoncture, c'est partout. Mais le cas du Mali, c'est exceptionnel. Je dirais pourquoi. Le problème sécuritaire, n'en parlons pas. Le plan santé, ça ne va pas non plus. Les Maliens souffrent énormément. Que l'année 2021 soit une année de bonheur pour tous les Maliens.
Il y a eu aussi la déstabilisation de l'État, de la démocratie, et sans compter aussi également la disparition de certains de nos anciens présidents.
Que 2021 soit une année vraiment sans coronavirus, beaucoup de succès et de santé surtout.
une année de paix, de sécurité, de santé et une année de bonheur 2021. Est-ce possible, docteur Brimali?
Ça fait beaucoup d'attentes, hein, mais je partage les points de vue de Mme Mariko Kourotoumou. Vous savez, 2022, c'est bientôt. Et c'est en 2022 qu'on est supposé avoir des élections. Qu'on le veut ou pas, la transition va finir par des élections. Il y a eu beaucoup de recommandations. La première recommandation fondamentale qui a été réitérée à chaque occasion, que ce soit la conférence nationale, que ce soit le dialogue national, c'est la refonte du système électoral. Avoir un seul guichet des élections, enfin un seul organe qui s'occupe des élections, mais pas des structures créées par le ministère qui vont être adossées au ministère, qui aussi va créer les mêmes problèmes et ensuite les mêmes contestations. Il faudrait qu'ils acceptent à un moment donné, franchement, d'écouter les Maliens. Les Maliens ont proposé un organe unique détaché de l'État. C'est pas compliqué et il faut le faire avec les partis politiques. Sortir de cette stratégie d'opacité et aller vers un dialogue franc avec les acteurs politiques. Parce que qu'on le veuille ou pas, ce sont des civils qui vont se présenter et qui vont être élus à la fin de la transition. Cette élection ne sera libre, crédible, transparente que lorsqu'on aura un seul organe qui va s'occuper des élections, qui va voir la question du fichier électoral. Le fichier électoral qu'on a n'est pas bon, tout le monde l'a dit et redit. Il faut le revoir, prendre en compte la diaspora. La diaspora, elle est estimée depuis 10 ans entre 4 et 5 millions. Donc on n'a pas encore recensé la diaspora pour avoir un chiffre exhaustif. Donc il faudrait que la diaspora et même prendre en compte les déplacés internes et les réfugiés parce que chacun de ces acteurs a son mot à dire. Premier élément, c'est fondamental de le commencer maintenant parce que l'élection c'est demain. La deuxième chose c'est la situation sécuritaire.
Juste, avant de parler de sécurité, concernant les élections, il y a M. Djibril Koulibaly qui demande déjà, est-ce que les élections pourront se tenir aux dates indiquées?
En fait, il faut que les élections se tiennent à la date indiquée. Il faut sortir de ces hypothèses, est-ce que... Parce que si on fait ça, là, vous savez, le président Moussa Traoré, quand il a fait le coup d'État, il a dit qu'il est venu pas pour longtemps. Il a fait 23 ans. On n'en sait jamais rien.
Est-ce qu'on risque
la même chose? Mais moi, je n'en sais rien. Parce qu'en fait, on a un président demi-civil, on a un vice-président militaire, et donc une administration. Enfin, les militaires, le poste régalien, c'est des militaires, beaucoup de gouverneurs militaires, des préfets militaires. Donc moi, je n'en sais rien. Moi, je dis, il faut travailler, pour moi, c'est les élections à la date indiquée. Même s'il faut faire les élections à certains endroits, par vote électronique, que dans des villes, mais un président à moitié bien élu, je préfère ça que dans cette situation de transition qui est une situation d'incertitude.
Mais trouvez-vous avec la transition, qu'à ce stade, on n'est pas des dates exactes?
Non,
on parle de référendum.
Non, il y a des dates, mais pour moi, on n'est pas en train d'aller sûrement. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Je prends juste là, par exemple, le décret du 3 décembre concernant la composition du CNT. Ça fait tout de suite jaser tout le monde. Et ça a mis les gens dans des stratégies de défiance et de doute. Donc il faut prendre aujourd'hui, il faut aller vers des mesures qui rassurent, qui permettent aux gens d'avoir confiance et d'aller les uns vers les autres pour discuter des choses essentielles. Les choses essentielles, comme je l'ai dit, c'est la question de l'organe qui va s'occuper des élections. C'est la question du fichier électoral, c'est la question de la loi électorale. Avoir peut-être un scrutin à un seul tour, des choses comme ça, ou bien en tout cas des proportionnels, ils ont la solution, les hommes politiques ont la solution, il faut discuter avec eux, on n'a pas le choix. La deuxième chose, c'est la situation sécuritaire. Depuis le 6 octobre, Farabougou est assiégé par des groupes terroristes. Du 6 octobre à aujourd'hui, plus de 20 personnes ont été tuées parce que c'est des personnes qui ont essayé d'aller au champ. Au niveau de K3, au niveau de K6, au niveau de K23. C'est des gens, enfin, donc c'est des personnes qui ont été tuées. Donc, en fait, il faudrait prendre la mesure du phénomène. Quand les terroristes sont capables de faire ça, Farabougou, c'est pas loin de Diabali. Diabali, c'est à 105 km de Niono. Niono, c'est à 105 km de Ségou. Et Ségou, c'est 240 km de Bogo. Donc, c'est à côté, en fait. Ils sont à Banamba. Ils ont attaqué. Donc, en fait, il faut arriver à juguler l'insécurité. Ça, pour le faire, il faut travailler avec nos partenaires pour qu'ils voient comment on peut, par exemple, libérer Farabougou. Et il y a eu les Bounty. 18 civils ont été tués là-bas. Une frappe aérienne. On ne sait pas qui l'a fait. Il faut que la vérité soit connue. Des exactions ont été commises par des milices. Des auteurs ont été identifiés. Bon sang. Il faut à un moment donné la volonté. La volonté commence par sanctionner. Donc ça, c'est la troisième chose, et je vais finir là-dessus, c'est la question de l'école. Moi, je ne comprends pas que le marché de Bamako soit rempli, que les mosquées soient remplies, que les sotramas soient remplis, et que nous, nos écoles, soient fermées. Il faudrait à un moment donné s'assumer, donner des masques aux gens.
Donc, vous pensez que les raisons données ne sont pas justifiées.
Il faut réouvrir les écoles. Vous savez, quand vous faites déjà, vous ratez un mois de scolarité, c'est tellement énorme. Et après, on ne fait que des années raccommodées pour faire plaisir aux bailleurs parce qu'on aura des chiffres. Mais qu'est-ce qu'on fait de la formation des gens? Si ces gens sont mal formés, et juste pour finir là-dessus, elle a parlé de VBG. Vous savez, dans toutes les localités, beaucoup de filles arrivent à se maintenir à l'école parce que l'école est ouverte. Mais si l'école est fermée, toutes ces filles vont être victimes de mariage précoce. L'UNICEF a dit, en raison de l'insécurité, plus de 2 millions de Maliens, d'enfants maliens ne partent plus à l'école. Ça, c'est en raison de l'insécurité. Mmh. Imagine, vous prenez le coronavirus en plus, vous fermez toutes les écoles, et là, c'est la catastrophe assurée.
Et Moussa Bessidibé et Hamza Diko s'intéressent à l'économie. Ils demandent, par rapport à la lutte contre la corruption, est-ce qu'il faut s'attendre à une avancée en 2021?
Pour qu'il y ait une avancée, il faudrait que tous les dossiers qui sont au niveau du pôle économique avance. Je me suis répété, mais il faut réellement que ces dossiers avancent. L'important, ce n'est pas d'arrêter les gens. Il faut qu'on arrive à un résultat. Soit les gens qui ont été arrêtés sont coupables et ils sont condamnés, soit s'ils ne sont pas coupables, on les relâche. Mais ça ne sert à rien de faire des effets d'annonce, de dire on a arrêté telle ou telle personne, telle ou telle personne a détourné tel ou tel nombre de milliards, et en catimini, on le relâche. Chaque fois que vous avez, les gens sont arrêtés, c'est le ramdam sur toutes les chaînes de télé, sur les réseaux sociaux. On les relâche, personne n'en parle. Il faut savoir pourquoi on les a relâchés. Il faudrait vraiment que la justice aille au bout. Arrêter les gens, ça ne suffit pas, il faut les condamner. L'OCLI dit qu'ils ont fait plusieurs dénonciations. Deux ou trois fois, je crois, au mois de décembre, ils ont dit qu'ils ont dénoncé des fonctionnaires qui sont suspectés. La présomption d'innocence est toujours là, mais les dossiers n'avancent pas. Et c'est ça, pour qu'il y ait une avancée dans la lutte contre la corruption, il faut que les gens qui sont arrêtés, on les juge. Il n'y a pas énormément de travail à faire. Une partie du travail a été fait déjà, soit par l'OCLI, soit par le vérificateur. Qu'est-ce qu'attend la justice? Ils ne vont pas recommencer. Ils ont déjà des éléments d'appréciation. Bien sûr, le procureur doit faire ses enquêtes, mais il ne faut pas qu'ils nous disent qu'il faille 2 ou 3 ans pour juger quelqu'un. Tant qu'il n'y aura pas de condamnation, il n'y aura pas de...
Vous demandez que la justice fasse son travail. Alors, il y a Mohamed Lamine Koulibaly qui demande qu'est-ce que les autorités du pays et les citoyens également du pays doivent faire pour que la gouvernance du pays soit améliorée.
Les citoyens, c'est une chose. Les citoyens subissent les mesures, les dispositions de changement mises en place par les autorités. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut... Comment faut-il faire pour que les autorités changent, qu'ils comprennent que le changement est obligatoire? Ça, c'est la pression que le peuple malien a commencé, qui a abouti à cette transition-là. Et les Maliens ont placé tellement d'espoir en cette transition que je vous assure que ce serait dommage que les acteurs qui sont au devant de la scène ratent cette transition-là. Moi, je pense simplement que c'est pourquoi j'ai dit que c'est au moins quelque chose de positif pour 2020. Cet engagement du peuple malien, il faut que chacun de nous contribue à l'entretenir et à le consolider. C'est la seule façon pour nous d'imposer cette pression que nous pouvons mettre sur les acteurs, les autorités. C'est la seule manière pour nous de les faire comprendre que le changement est obligatoire. Ce n'est pas un cadeau. C'est obligatoire. Et le pouvoir qui va être mis en place en 2022, ce pouvoir doit trouver sur place vraiment cet engagement consolidé pour que plus jamais les malheurs par lesquels le Mali est passé, pour qu'on ne les revoie plus, parce que ça ne peut pas, il a dit, ça ne peut pas continuer, c'est un éternel recommencement. On ne peut pas passer toute notre vie à ça. Les pays tout autour de nous, des pays qui étaient considérés comme rien du tout à côté du Mali, ce sont ces pays-là, quand vous vous retrouvez dans ces pays, vous avez de la peine à soulever la tête. Je vous assure qu'une fois, je me suis retrouvée dans une séance de commission de l'ONU, et c'est le Brésil qui a parlé au nom du Mali, du Sénégal et du Burkina Faso. Parce que les ministres qui étaient pourtant sur place à Genève, qui avaient la responsabilité de venir défendre le coton de leur pays, étaient absents.
Et il nous reste 1 minute et 30 secondes. 30 secondes pour chaque invité. Quelle est l'urgence aujourd'hui, Brema Elidiko, pour avoir une année 2021 réussie de bonheur, comme l'ont demandé certains Maliens?
Oula, urgence. Avancer sur l'accord d'Alger, donc discuter avec la CEMA. Parce que ça va contribuer à la question de la sécurité. Ouvrir nos écoles. Troisième chose, travailler avec les hommes politiques pour refondre le système électoral.
À vous, professeur Mamoutou Soumaré.
Pourquoi c'est d'abord, il faut qu'il y ait un leadership qui soit conscient des enjeux du Mali, les enjeux économiques, les enjeux politiques, les enjeux sécuritaires, les enjeux d'école. Et vraiment que tout ce gouvernement, tous les gens du Conseil national de la transition luttent justement, soient des forces de proposition pour que le Mali sorte de ce puits. En fait, on est tombé dans un puits, on n'arrive pas à en sortir. Il faut vraiment qu'ils luttent.
À vous, Madame Mariko Kolotoumoutera.
Je pense que si la transition peine à arriver à des décisions, que la transition s'ouvre aux acteurs, que ce soit politique, que ce soit société civique, qu'ils ouvrent cette possibilité-là pour qu'on les aide à arriver, enfin, on les aide à atteindre les objectifs visés, parce qu'on a placé beaucoup trop d'ambition, il y a eu beaucoup trop d'espoir placé en eux. La deuxième chose que je voulais dire, ça c'est vraiment par rapport à 2021, il faut que les Maliens et les Maliennes comprennent que on ne peut absolument rien et on n'arrivera à rien que par soi-même.
Merci. 19h, le temps fait défaut. Merci à nos invités et nous remercions également ASCD Mali et Ibrahim Haïdara qui ont également posé des questions sur la page Facebook de Studio Tamani. Nos invités, Madame Mariko Kolotoumoutera, directrice de l'ONG FEDDE, professeur Mamoutou Soumaré, économiste chercheur au groupe de recherche et de réflexion sur la corruption GRRC, et docteur Brema Eli Diko, sociologue, professeur à l'Université des Lettres et Sciences Humaines du Mali. À la régie vidéo et audio, c'est Dundao et Gagné Kanté. Je suis Mohamedou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Merci à toutes et à tous.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakara. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Haloud Mouni.
Chenne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.